Merci à l'IMAOV, l'Institut des médecines alternatives et ostéopathie vétérinaire, de sponsoriser cet épisode. Sur cette saison 2, nous avons eu de nombreux invités qui ont enrichi leur pratique avec des médecines complémentaires, ce qui nous démontre que l'attrait pour ces manières différentes de pratiquer la médecine est grandissant. L'IMAOV propose des formations de grande qualité, exclusivement réservées aux vétérinaires, et ce depuis 25 ans. Une formation diplômante en ostéopathie qui prépare au DIE, Diplôme Inter-École Ostéopathie Vétérinaire, mais aussi en acupuncture et également bien sûr en physiothérapie et phytothérapie. Les sessions de formation se déroulent en région parisienne ou lyonnaise, en petits groupes, ce qui permet de consacrer 50% du temps à pratiquer. C'est important aussi de dire que vous pouvez bénéficier d'une prise en charge par l'organisme OPCO-EP ou d'autres organismes comme FIFPL ou France Travail par exemple. Si vous aussi vous avez envie de faire les choses autrement pour soulager l'animal et être dans la prévention, en complément de la médecine allopathique et du curatif bien sûr, je vous invite à consulter le site internet imaof.com où vous trouverez toutes les informations utiles. Merci à l'IMAOV de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité.
Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Themavet.
Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires.
Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job.
Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire.
Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes. Parler de notre rapport au métier, bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
Belle écoute.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre toute jeune consoeur, Cécile Michaud. Bonjour Cécile.
Bonjour Marie.
Alors Cécile, tu es sortie de l'école de Nantes Oniris tout récemment, en 2021. Tu es née en 97, donc tu fais partie du tout début de cette génération Z qui fait si peur. Tu as un parcours classique, hein, c'est toi qui le dis, 2 ans de prépa, 5 ans à Oniris, dont une dernière année d'approfondissement en équine. Et quand tu étais en dernière année d'école, tu as posté un message sur le groupe Facebook SPQVA, qui était anonyme à l'époque, et qui concernait le mal-être des étudiants vétérinaires et qui a fait pas mal de bruit, on en parlera dans cet épisode. Diplôme en poche et sans internat, ce qui est assez rare en équine, tu entres dans la vie active en cumulant demi-temps en équine entre le Finistère et la région nantaise. Tu feras ça 6 mois et finalement tu te positionnes sur la clinique à côté de Nantes où tu travailles toujours aujourd'hui. Alors t'as pas mal de loisirs, tu m'as envoyé une petite liste, lecture, promenade, photo animalière, violoncelle hein, que tu viens de débuter, et j'ai trouvé qu'ils avaient tous un point commun, c'est qu'il s'agit d'activités calmes et contemplatives, donc je me doute que ça doit avoir quelque chose à voir avec ta personnalité, on en reparlera. Aujourd'hui t'es épanouie dans ton métier et tu avais envie de partager avec nous ton expérience, notamment à l'école vétérinaire, car comme tu le dis, tu as un peu plus de recul maintenant, et tu m'as aussi dit que tu voulais partager un message positif et que le soleil s'annonçait souvent après les nuages, et c'est sûrement cette dernière phrase qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Cécile, on y va ?
Super.
Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études vétérinaires ?
Encore une fois, pas trop d'originalité, mais voilà, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Quand j'étais petite, il y a eu d'autres passades, mais depuis la fin de collège, c'était vétérinaire. Et après, je pense que ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le fait que on n'a jamais 2 journées identiques. On n'a pas de routine. Chaque journée est complètement différente. Et c'est un métier qui est vraiment stimulant intellectuellement. On a cette rigueur scientifique, ces choses-là qui vraiment m'attiraient dans ce métier-là.
Donc, tu passes par la classe préparatoire.
Oui.
Et tu arrives à l'école de Nantes. Comment tu choisis l'école que tu intègres?
Alors Nantes, c'était mon premier choix. En fait, géographiquement, moi je viens de Dordogne, donc j'étais près de Toulouse ou de Nantes, et en fait mon compagnon était plutôt breton, donc j'ai préféré mettre Nantes en premier, et c'est ce que j'ai eu. Donc c'est un choix du cœur, on va dire.
C'est important de le dire. Et comment ça se passe ces premiers temps à l'école, l'intégration, qu'est-ce que tu y découvres, qu'est-ce que tu y apprends?
Les premières années, elles se passent tranquillement. Après, Je suis un peu, entre guillemets, particulière dans le sens où moi, j'ai pas fait du tout l'intégration. Ils m'ont fait peur au premier jour, donc j'ai fui l'intégration.
C'est vrai, t'as fui l'intégration?
Ouais, j'ai pas du tout fait l'intégration.
Est-ce que tu peux expliquer ce qui s'est passé?
Le premier jour, je sais pas comment c'est dans les autres écoles, mais nous, ils nous poussent tous dans l'amphi, le plus grand amphi, dans le noir, et donc on se fait marcher dessus, on a cassé ma chaussure, et ensuite ils crient des chansons paillardes pendant un certain temps, et voilà, moi j'étais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là, j'étais, enfin voilà, confinement, dans le noir, au milieu des gens, je suis pas agoraphobe ou claustrophobe, mais enfin là c'était vraiment trop limite pour moi, ils m'ont fait peur, et après ça je suis partie et je suis pas revenue.
Non mais d'accord, c'est intéressant parce que finalement ton premier, enfin tu vois là tu fais 2 ans de prépa, c'est long, ça te demande beaucoup d'investissement personnel et ce premier contact avec le monde vétérinaire en fait il est pas super agréable en fait.
Non, clairement pour moi c'était un peu violent, oui. Après le reste de la scolarité, voilà, j'ai pas été en soirée tout ça parce que c'est pas mon délire de boire tout ça. C'était moi, j'avais ma petite vie rangée avec mon homme chez moi et j'étais pas du tout à l'aise dans le milieu étudiant fêtard. Je condamne absolument pas ce qu'ils font, mais c'est juste voilà, on a chacun sa manière de s'amuser et moi ça correspondait pas du tout à mes envies quoi.
Est-ce que t'as eu un sentiment d'exclusion ou est-ce que c'était voilà, tu t'étais très bien comme ça et ça ne t'a pas posé plus de questions que ça?
À la fois les deux, dans le sens où bah forcément j'étais pas super intégrée non plus au niveau des étudiants. La plupart en fait ils comprenaient pas pourquoi, ils avaient l'impression que je les jugeais alors que en fait non, mais du coup on se comprenait pas et donc forcément on n'avait pas énormément d'affinités particulières. J'avais un petit groupe d'amis, j'avais mon homme chez moi et je le vivais très très bien, hein, mais non, j'étais pas vraiment intégrée socialement à l'école, clairement.
D'accord. Et sur la partie plus scolaire, est-ce que ce que tu y apprends est conforme à ce que tu attendais?
Au niveau scolaire, oui. Bah alors, du coup, ça va un peu avec, mais j'étais quelqu'un de très studieuse. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai plus travaillé en première année d'école qu'en prépa. mais après, voilà, j'ai appris un peu à...
Faut dire que les premières années théoriques, elles sont quand même très très lourdes en termes d'apprentissage, hein.
C'est... Bah oui, c'est ça. Et puis moi, dans ma tête, c'était inenvisageable de pas aller en cours ou quoi. Donc j'allais à tous les cours, je travaillais chez moi. Voilà, je me mettais vraiment une grosse pression parce que je voulais être une bonne vétérinaire et qu'il fallait pour moi que j'apprenne tout, tout, tout.
Et ça t'intéressait, toutes les matières t'intéressaient?
Ben, j'ai toujours réussi à m'intéresser à peu près toutes les matières, oui, à trouver un intérêt. Je suis très curieuse naturellement et donc dès qu'on me propose d'apprendre des choses, moi je prends.
Et en quatrième année, pourquoi tu fais ce choix de l'équine? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais depuis longtemps?
L'équine, c'est assez marrant parce que quand j'étais assez petite, je disais... j'adore les chevaux, mais j'ai pas envie de les soigner. Je monte à cheval depuis que j'ai 6 ans. C'est vraiment une partie hyper importante de ma vie. Mais je disais, je les adore, mais j'ai pas envie de les soigner. Je veux faire les chiens, les chats, les vaches.
Et tu sais pourquoi, ça?
Non, honnêtement, je sais pas pourquoi. Et même aujourd'hui, je m'en étonne encore. Mais c'était vraiment ancré. C'était, j'ai pas envie de les soigner. Mais vraiment, je sais pas pourquoi. Et je suis rentrée en école en disant ça. J'ai pas envie de faire des kills, je veux faire de la mixte. Et puis, les années passant, je me suis investie auprès des juments de l'école. Donc, j'ai repris un peu plus contact avec les chevaux. J'ai fait des stages où il y avait un peu d'équine. Et du coup, bah, ça me plaisait quand même. Et donc, finalement, au fil des années, en arrivant en quatrième année, j'ai dit, bon, finalement, je veux faire de la mixte canine-équine.
D'accord.
Dans l'imaginaire, enfin, dans ce qu'on nous... J'explique un peu à l'école, on a l'impression qu'on peut pas faire d'équine si on n'a pas fait une cinquième année équine à l'internat et machin.
Bien sûr.
Et je me suis dit, bah, je suis obligée de faire une cinquième année équine. Donc, je me suis lancée dedans. Et c'est pendant la cinquième année équine que j'ai fait un stage en itinérante avec deux super vétos que je remercie.
Que tu peux peut-être citer.
Ouais, Hélène Schwarz et Laurence Carteron, juste à côté de Périgueux, Saint-Pierre-de-Chignac, voilà, qui m'ont permis de faire un merveilleux stage. Et quand je suis partie de là, j'ai dit, c'est exactement ça que je veux faire, donc de l'équine pure, itinérante.
Donc, changement de programme, complètement. Donc,
complètement.
Grâce à, entre autres, à une rencontre avec des consoeurs, ouais, qui t'ont montré la voie.
Ah ouais, complètement, oui, oui.
Et comment se passe cette cinquième année en équine à Nantes, du coup?
La cinquième année équine, ce qui est particulier, c'est que moi, ma quatrième année, c'était l'année Covid, hein, donc on n'a pas eu de Covid quasiment.
D'accord.
Donc ça a été pas évident, donc on arrive en...
Peut-être raconter comment ça s'est passé dans les écoles, le Covid.
Les écoles, en fait, les hôpitaux, ils ont quasiment fermé. Pendant un certain temps, je crois que ça a fonctionné avec que les internes et les profs. Et donc, les étudiants de la première à la cinquième année étaient assignés à résidence. Et donc, on avait des cours en distanciel. Et voilà, je sais que par exemple, en canine, ils nous ont envoyé des kits avec des petits instruments plastiques pour nous entraîner à faire des sutures sur des torchons, etc. quoi. Mais bon, on n'avait plus du tout de contact avec les animaux, pas de clinique.
Et toi, t'as passé cette période où, sur le campus, ou t'es rentrée
J'étais ici même, dans mon appart à Nantes. Donc j'étais pas seule, hein, j'étais avec mon compagnon, donc j'étais sur Nantes à 5 minutes de l'école, mais sans pouvoir y aller, et sans clinique, c'est pas facile.
Et pendant combien de temps t'as pas mis les pieds à l'école?
C'est à partir de mars, je crois, qu'on a été confinés,
oui,
à peu près.
Fait.
Et donc de mars jusqu'à la rentrée de cinquième année, en fait, mars à septembre, on n'a pas mis les pieds à l'école.
Ah oui, donc c'est vraiment sur une très longue période.
C'est tout un semestre, en fait, qui a sauté, quasiment.
Et ça, psychologiquement, tu le vis comment?
Je pense que pour nous, je dis nous, mais moi aussi, surtout moi, mais je pense la génération quand même qui a assez peu confiance en elle, en tout cas, moi, c'est le cas, et c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent sur notre génération, je pense que ça a été encore plus difficile de se sentir légitime à rentrer dans le monde du travail, alors que notre année de... où on découvre vraiment la pratique, elle a été quasi inexistante. Je pense que ça a aussi joué un rôle dans le fait que je fasse de l'équine pure, dans le sens où j'avais pas fait de canine, en fait.
Ouais, du coup, en fait, t'as l'impression qu'on t'a enlevé une année fondamentale de ton cursus et que ça t'a pas permis d'acquérir ce que tu souhaitais en pratique.
Oui, clairement oui. Ça nous a... Surtout, je pense, pour moi qui, à la base, envisageais une mixte canine-équine, toute ma pratique équine, elle a été... inexistante, et donc forcément on s'imagine beaucoup moins rentrer dans le monde du travail et prendre de l'autonomie en canine, alors que en fait j'en ai pas eu du tout à l'école.
D'accord. Oui, donc une année compliquée. Est-ce que tu sais si tu as d'autres étudiants qui vraiment ont très mal vécu psychologiquement cette période de confinement?
Ah, je sais que pour certains ça a été effectivement très difficile, surtout ceux qui ont pas pu rentrer chez eux et qui étaient seuls dans leur appart. Là, forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Je pense, chacun l'a vécu vraiment différemment. Mais c'est sûr que non, ça n'a vraiment pas été une période facile pour les étudiants, ça, c'est certain.
D'accord. Alors, on en revient à cette cinquième année où, enfin, vous sortez de cette période d'isolement et de Covid.
C'est ça, la libération.
Comment ça se passe pour toi, du coup?
Le début de la cinquième année, super. On a d'abord en équine, on a d'abord une période de théorie où tous les étudiants les trois écoles qui étaient venues à Nantes faire la partie théorique. Donc on se retrouve, on discute, on remet un peu les pieds dans les cours, et donc ça permet de se remettre à niveau et de se sentir prêt pour aller en clinique. Et puis ensuite la clinique. Et là, je vais pas dire qu'on déchante, mais quand même un petit peu, dans le sens où en fait on se rend compte que le rythme est vraiment très soutenu, très très soutenu, que en équine, malheureusement, on trouve, après en avoir discuté avec d'autres, on est un peu tous d'accord, il y a un niveau de différence par rapport à la canine, par exemple, sur les actes qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire que ce que des quatrièmes années de canine vont faire, c'est des choses qu'on va faire qu'en cinquième année, etc. Donc, on a un peu cette frustration de pas faire des actes qu'on aimerait.
Oui, tu veux dire que l'équine, en fait, c'est de tout temps, hein, c'était pareil à mon époque.
Ouais,
c'est-à-dire qu'en fait, l'équine, finalement, on va commencer à pratiquer une espèce de sacralisation. Et du coup, on fait pas confiance tôt et il faut beaucoup de temps avant de pouvoir commencer à faire des actes même assez simples, que sont la pose de cathéter, le fait de mettre une sonde nasogastrique, c'est ça dont tu parles.
Ouais, complètement. Ça, c'est des actes que, en canine, tu ferais facilement en quatrième année. Poser un cathéter, on le fait faire en
Bien
quatrième
sûr.
Année. Et en équine, le quatrième année, il posera jamais ou exceptionnellement un cathéter. Et ça, c'est pareil pour tous les actes. Il y a vraiment une année d'écart en fait sur tous les actes. Donc il y a quand même une certaine frustration à se dire bah on est là pour apprendre à faire des choses et finalement on les fait pas, on est plus à faire nos comptes rendus et faire les soins courants, mais faire des injections dans un cathéter qui est déjà posé que.
Oui, c'est plus des soins finalement infirmiers quoi.
Ouais.
Et ça, tu t'y attendais pas ?
Bah, si, un petit peu, parce que j'avais quand même fait ma quatrième année en équine, juste avant d'être confinée, justement. Et donc, on savait que ça fonctionnait comme ça. Mais d'être dedans, alors qu'on est très motivé, voilà, ça frustre quand même un peu.
D'accord. Et c'est cette année-là qu'intervient ce fameux message qui a été posté sur SPQVA.
Ouais, c'est ça. En fait, donc ce que je disais, c'est ça, c'est que le rythme, il est vraiment très soutenu. Le midi, on mange le plus vite possible pour retourner faire ce qu'on a à faire. On arrive tôt le matin, on part tard le soir. Quand on est de garde, on est 26 heures d'affilée à l'école. Quand il y a des poulains, c'est 26 heures sans dormir. Et en mangeant le plus vite possible, quand on peut manger. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait facilement des grosses semaines. Et ce que je disais, notamment dans le message, en fait, c'est le minimum qu'on fait, c'est 60 heures de présence à l'école par semaine. Et dans les pires semaines, nous, en cinquième année, on monte à 90 heures. Quoi. Et encore, c'est les internes, ils sont facilement à 100 heures minimum, quoi, en fait. C'est fatigant, tout simplement.
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est ce que tu expliques. Donc tu postes ce message dans quel état d'esprit, en fait ?
En fait, ce message, j'étais vraiment, je pense que j'arrivais un peu à la limite de ce que j'arrivais à supporter, et j'avais beaucoup de questionnements dans le sens où je me disais, mais est-ce que c'est normal que je sois aussi fatiguée ? Est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que c'est moi qui suis pas capable de le tenir alors que tout le monde a l'air d'aller bien, est-ce que plus tard c'est comme ça, enfin vraiment le but de mon message c'était de dire attendez, est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis juste feignante, et donc j'avais vraiment besoin d'avoir un petit peu un retour, d'exprimer ce que je ressentais et avoir des retours sur est-ce qu'il y en a d'autres qui vivent ça ou pas, est-ce que c'est normal.
Et ce message tu le postes de manière anonyme, pourquoi?
À ce moment-là, en fait, j'avais vraiment peur du retour des autres, peur d'être jugée par mes co-cinquième année et puis surtout par mes supérieurs. Et vraiment, à ce moment-là, en fait, je me disais, si je le poste en mon propre nom, ça va vraiment avoir des répercussions sur la validation de mon année. Plus tard, si des futurs employeurs ont vu ce message, ils vont peut-être pas vouloir m'embaucher parce que ils vont croire, enfin, penser que je suis feignante. Enfin, j'avais vraiment, vraiment peur des répercussions si c'était en mon nom propre.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été déjà les réactions des vétérinaires sur SPQVA? Et ensuite, est-ce que c'est remonté dans les écoles?
Oui, ça a été assez impressionnant. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et Doane non plus d'ailleurs, que je remercie d'avoir posté mon message. En moins de 24 heures, c'était remonté à la DGL, donc au ministère, au directeur des quatre écoles, et au CNOV, hein, à l'ordre vétérinaire. Et en moins de 24 heures, on avait 500 commentaires avec des témoignages d'autres étudiants de toutes les écoles et des personnes sorties de l'école déjà qui étaient hallucinées et qui comprenaient pas et qui disaient mais c'est pas possible, c'était pas ça qu'on a vécu. C'était assez impressionnant de voir les réponses aussi vite, ouais.
Et les gens répondaient quoi, les vétérinaires qui sont sortis depuis plusieurs années, qu'est-ce qu'ils mettaient en commentaire?
Il y en a certains qui y croyaient tellement pas et qui disaient c'est pas possible en fait. Ils disaient mais non, nous on était fatigués de faire des booms, pas d'aller en cours. et c'est en voyant le fait que plein d'autres étudiants relataient les mêmes choses que moi, qui se sont rendus compte que non, ça avait vraiment changé, que c'était devenu beaucoup plus compliqué qu'à leur époque. Ouais.
D'accord. C'est marrant parce que moi, je suis sortie un peu plus de 10 ans et je retrouve quand même dans ce que tu racontes des choses que j'ai pu vivre sur les années, que ce soit les premières années du CHUVA, moi j'étais à Alfort, ou en équine. Alors je t'avoue que j'ai jamais compté le quota d'heures, mais je pense qu'on était vraiment sur des très gros quotas d'heures. Est-ce que tu sais pourquoi ça a changé en fait? Qu'est-ce qui a pu changer? Parce que je sais pas, parce que les gens qui te disaient ça de quand ils étaient sortis, sortie, mais qu'est-ce qui a pu changer peut-être en 20 ans?
J'étais pas là il y a 20 ans, donc c'est difficile de savoir, mais peut-être que les hôpitaux sont peut-être développés plus que ce qu'ils pensaient. Il y a eu besoin de main-d'œuvre qu'ils n'avaient pas autrement qu'avec les étudiants, et peut-être que c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire des tâches qui n'auraient pas forcément été les nôtres initialement et qui alourdissent nos journées. Je sais pas, c'est une hypothèse, mais j'ai pas la réponse.
Oui, ça paraît plausible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un quota de consultation qui est peut-être augmenté dans les écoles. Le nombre d'étudiants, là, il a fortement augmenté récemment, mais il avait peut-être pas suffisamment augmenté. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Ensuite, au début, d'avoir eu tous ces retours positif et surtout de personnes qui vivaient la même chose, je me suis dit waouh, ok, je suis pas seule, je suis pas feignante, et sur le moment je me sentais beaucoup mieux. Et ensuite je suis retournée à l'école et là en fait j'ai vraiment une désillusion, je me sentais humiliée, il y avait pas mal de personnes qui en parlaient, vraiment tout le monde en parlait de ce message à l'école, et sauf que souvent en fait c'était dit sur le ton de la moquerie, en mode ah, je suis un peu fatiguée. Oh, moi aussi, je vais faire un post Facebook. Ha, ha, ha. Et donc là, je me sentais mais super mal, en fait. Vraiment humiliée de voir ces réactions. Sur le moment, ça a été d'abord un sentiment de partage. Enfin, je me sentais mieux au début. Et puis après, quand j'ai eu ces réactions-là à l'école, je me sentais vraiment pas bien, du coup, après.
Parce que donc ce sont les autres étudiants des mêmes années que toi qui étaient pas d'accord avec la méthode, c'est ça ?
Je sais pas si c'est la méthode, je sais pas qu'est-ce qui a induit cette réaction là chez eux, mais c'était
le fond ou la forme.
Je sais pas du tout, mais c'était peut-être plutôt la forme effectivement, parce qu'à chaque fois ça revenait, je vais mettre un message anonyme, c'était vraiment ça qui revenait, et c'était les cinquièmes années et les internes surtout, ouais, qui disaient ça.
Et est-ce que tu as une idée de ce qui fait que ça se passe comme ça, qu'il y a cette espèce de soutien, de reproduction de ce système où on travaille beaucoup et où on n'a pas trop le droit de se plaindre. Qu'est-ce que ça a dit de nous et de notre construction en tant que vétérinaire? Est-ce que tu as une idée?
Je pense que malheureusement, il y a un petit peu cet esprit de... Moi, j'ai souffert quand j'étais à ce moment-là, donc... Pour devenir le même vétérinaire que moi, tu dois passer par les mêmes épreuves et souffrir comme moi j'ai souffert. J'ai un peu cette impression qu'il y a cette mentalité-là qui part des profs, qui se répercute sur les internes, qui se répercute sur nous, etc. Mais je saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, je trouve ça dommage. Mais après, sachant, il y a quand même eu des évolutions. Enfin, sur le moment, quand même, le message, il a fait bouger les choses. Hein. Comme on le sait, c'est remonté vite au ministère. Au directeur d'école, donc après c'est redescendu dans les écoles, tout de suite les professeurs, ils ont fait des réunions, ils ont demandé à discuter avec nous, etc. Il y a eu des petits changements, des questionnaires qui sont passés dans des services, enfin, sur le moment ça a quand même déclenché des choses.
Et après, oui, ça a été pris en considération.
Ah oui, par contre, ça a vraiment été pris très au sérieux, du moins par les instances et jusqu'aux professeurs, donc ça a vraiment été pris au sérieux. Ça a été discuté dans les écoles, voilà, il y a eu des évolutions. Je sais que nous, sur les plannings des quatrièmes années en équine, il y a eu des modifications à leur demande suite à ça, en concertation entre les professeurs et les quatrièmes années pour adapter un peu le planning et qu'il y ait moins de fatigue liée à ça, etc. Il y a vraiment eu des répercussions. Après, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a encore des améliorations suite à ça, ou est-ce qu'on est revenu, entre guillemets, à la même chose? Je saurais pas dire, je sais plus, mais on en avait jamais parlé.
Et finalement, après ce message, est-ce que tu arrives à en parler avec tes amis, les personnes proches, en tout cas? Est-ce que ces personnes te disent, bah oui, en fait, moi aussi, je suis fatiguée?
Oui, bah voilà, entre nous, dans notre groupe, on en a discuté, on s'est rendu compte qu'on était 4 sur 5 à être vraiment fatiguée comme je l'étais, et il y en a une qui était beaucoup moins, c'est une vraie bête de travail, et voilà, elle ressentait beaucoup moins cette fatigue-là, et pour elle, c'était normal aussi. Et on en a aussi discuté avec les professeurs. Les professeurs sont revenus vers nous, ils nous ont pris un petit groupe pour demander ben, comment ça va, est-ce que vous êtes fatigués, machin. Ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'en veux pas, elle s'en est pas rendu compte, mais on n'en avait pas encore parlé entre nous. Et la personne qui, elle, était pas vraiment fatiguée, elle a tout de suite pris les devants. Je pense qu'elle a voulu les rassurer pour pas qu'ils culpabilisent, mais elle dit « Ah ben non, on n'est pas fatigué, c'est normal. De toute façon, pour arriver là, il faut qu'on travaille, machin. » Et donc nous, derrière, on était toutes, on s'est toutes un peu renfermées, on n'a pas osé dire « Ben non, en fait, on est fatigué. » Donc c'est un peu dommage, on a raté cette occasion-là. C'est pour ça que je dis il faut en parler, en fait.
Et est-ce que tu penses que ça a un rapport avec l'excellence du parcours? Parce que tu m'as écrit, j'ai fait un parcours classique, c'est un parcours classique d'excellence avec la prépa. Voilà, on sait tous que c'est en France, c'est un parcours difficile. Est-ce que tu penses que ça nous interdit quelque part de flancher et de dire qu'on est fatigué puisqu'on a toujours été dans l'excellence?
Mais je pense que oui, en fait, depuis la prépa, on doit mettre cette fatigue. On a l'impression qu'on doit mettre cette fatigue de côté, effectivement, parce qu'on a un rythme qui est soutenu et on a cette impression que si on soutient pas ce rythme-là, on va échouer, que la peur de l'échec qui arrive ici une première fois est en lien avec cette fatigue. Et je pense que oui, clairement, ça conduit au fait que on s'autorise pas à être fatigué.
Oui, d'accord. Est-ce que tu penses que sur cette promo 2021, il y a aussi l'espèce de fatigue psychique accumulée avec toute cette histoire de Covid et de confinement qui a pu aussi jouer sur le fait que vous étiez une promotion particulièrement à risque niveau fatigue?
Je pense que ça n'a pas aidé, surtout que c'est pas les mêmes types de fatigue. Comme tu dis, c'est une fatigue psychologique, voire même mentale du Covid, qui entraîne une peur de l'échec un peu plus importante du fait qu'on a l'impression de ne pas avoir été suffisamment formé, qui vient se rajouter à la fatigue physique qui est présente pour tout le monde, pour chaque promo. Hein, mais c'est vrai que ça a peut-être été un facteur supplémentaire de risque au niveau de cette fatigue. Ouais. Ma dernière année d'école, j'ai fait 2 crises d'angoisse à l'école, enfin aux hôpitaux. C'est les 2 seules crises d'angoisse que j'ai fait de ma vie. Je connaissais pas du tout ça. Ça m'avait fait peur. Je m'étais dit, en sortant d'école, ça se trouve en fait, c'est le métier qui me convient pas. Ça se trouve, je vais continuer à être angoissée, je vais continuer à faire des crises, et ça me faisait peur. Et en fait, pas du tout.
Est-ce que tu peux expliquer comment ça se matérialise une crise d'angoisse que les auditeurs comprennent bien?
En fait, d'un coup, je me mettais à respirer très très fort. J'avais le cœur qui battait.
En situation où t'étais en train de travailler, en fait.
Ah oui, en fait, donc j'en ai fait 2. La première, c'était un cheval qui sortait d'une anesthésie debout, donc qui était un peu shooté. On le ramenait au box et puis il a eu peur de quelque chose, je sais pas quoi, et il est rentré dans les étagères d'un côté et dans le box de l'autre. Enfin, un événement assez important, traumatisant, et donc on le rentre dans le box, machin. On regarde, on fait l'état de lieu, ok, il n'y a pas trop de lésions, machin, ça va. Et là, j'ai tout qui retombe, je me sens un peu flageolante, je vais m'asseoir dehors, et là, j'ai le cœur qui bat très très fort, je me mets à trembler et à pleurer de manière incontrôlée, et à... Ouais, j'avais l'impression que je pouvais plus respirer, c'était...
C'était débordée, quoi.
Ah, complètement, complètement. Et tu peux rien faire, rien dire, rien... T'as tout le visage qui tremble, qui fourmille... moi en tout cas c'est comme ça que ça se manifeste, et j'avais jamais vécu ça avant, et donc c'est un peu traumatisant.
Ben oui, j'imagine.
Suite à cette crise, donc ça en fait, cette crise là elle est arrivée 2 jours après que j'ai posté le message. Donc suite à ça, j'ai été voir une prof, hein, tout simplement, que je remercie aussi, et donc j'ai dû lui dire que je me sentais pas bien et que j'avais besoin de rentrer chez moi, mais surtout, si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez et je reviens. Elle m'a dit non, Cécile, tu rentres chez toi, tu vas te reposer et on ne t'appelle pas. Et donc voilà, j'ai pu prendre une journée pour aller me reposer chez moi, et ça fait du bien. Et donc je remercie. C'est pour ça que je disais, il faut en parler, en fait, parce que quand on ose, parce que ça m'a demandé beaucoup d'aller lui en parler, ça a été pas facile pour moi. Mais en fait, une fois que c'est fait, on se dit, mais pourquoi je l'ai pas fait avant, en fait?
Bien sûr.
Et donc, voilà, je suis pas allée me reposer.
Et donc, une deuxième crise d'angoisse a lieu quand même après cette première.
Oui, la deuxième crise d'angoisse, du coup, c'était pendant la deuxième période à l'école. C'était en pleine chirurgie. Chirurgie de colique en plein milieu de la nuit. Je me suis mise à avoir chaud. J'ai une des professeurs qui m'a dit « Enfile des gants stériles et viens m'aider à tenir l'intestin. » Chose que... Waouh, je mets des gants stériles en chirurgie, mais que se passe-t-il? C'est inédit pour un cinquième année. Et donc, j'enfile mes gants, je tiens le bout d'intestin. Elle me dit « Surtout, tu lâches pas, c'est hyper important. » Et donc là, j'étais tétanisée sur mes pouces à faire... Parce que ça glisse, tu vois, parce que surtout, ça ne lâche pas. Et puis, je me suis mise à avoir super chaud, machin. Je me sentais vraiment pas bien. Mais je le montrais pas, forcément. Et puis je tenais. Et puis quand on m'a dit c'est bon tu peux lâcher, j'ai enlevé mes gants, je suis partie dans les vestiaires et puis là j'ai tout lâché. Et voilà, deuxième crise similaire à la première qui est arrivée. Je saurais pas dire, je saurais pas dire pourquoi. Je pense que c'est un trop plein en fait. C'est juste un trop plein de fatigue. Il est 4 heures du mat, tu commences à avoir chaud.
Oui, j'allais te dire la colique avec la casaque plastique sous la lumière bien chaude, la
paralytique,
quand on est statique et debout avec l'odeur, la bonne odeur de la chirurgie de colique.
Ouais, c'est ça. Vraiment, et puis en fait,
c'est pas facile.
Et pendant que je tenais ce bout d'intestin, je sentais que je fatiguais, que j'avais les muscles qui tétanisaient. Dans ma tête, c'était « Mais t'es nul, t'es même pas fichu de tenir un bout d'intestin. Qu'est-ce qu'elle va penser si tu lâches, si tu dis que ça va pas ?» C'était vraiment, je me tournais en boucle « T'es nul, tu peux même pas tenir un intestin, en fait. » Et donc, c'est pour ça, j'ai tout craqué. Dès qu'elle m'a dit « C'est bon, tu peux y aller », j'ai craqué. Ils ont rien compris, ils m'ont vu partir en courant.
Et donc ça, la réflexion qui sort de ça, ça remet en question la voie que t'as prise. Tu te dis, c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, peut-être que c'est moi qui suis pas du tout faite pour ce métier-là.
Oui, j'avais vraiment, enfin, à ce moment-là, encore une fois, je me dis, t'es même pas capable de faire ça. Alors comment veux-tu faire plus ? C'est un peu ça.
D'accord. Bon, et donc tu termines cette année, qui n'a pas été facile si j'entends bien, tu décides de ne pas faire d'internat.
Oui.
Pourquoi ?
Ah bah, j'en pouvais plus. Non, vraiment, j'en pouvais plus, mais je me suis dit, mais je
ne C'est quelque chose que tu avais envisagé à un moment ou pas du tout ?
Oui, et honnêtement... Quelques années auparavant, j'aurais été surprise de pas faire un internat parce que, comme j'ai déjà pu le dire, je suis quelqu'un de très scolaire, assidu, et c'est vrai que l'internat, c'est un peu dans la continuité de cette voie-là, très scolaire. Et c'est vrai que, dans une certaine logique, j'aurais dû faire un internat. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que j'en ai pas fait. D'une part, le fait d'avoir rencontré des vétérinaires équins, purs, à mon sens excellente, et qui n'avait pas fait d'internat, et qui s'en sortait plus que merveilleusement bien, à mon sens. Et donc ça, déjà, ça a été un modèle pour moi, et une première rencontre avec le fait que oui, on pouvait être vétérinaire équin sans avoir fait d'internat. On sortait un petit peu de ce dogme qu'on nous donnait à l'école. Et puis la deuxième chose, ça a été tout simplement cette fatigue... Quand je voyais l'état des internes et quand je voyais comment je vivais moi déjà mon année, j'ai dit mais jamais je pourrais survivre à une année comme ça. Donc ça a été ces deux facteurs-là qui ont fait que je me suis dit je vais me lancer.
D'accord. Donc finalement, t'as pas cette inquiétude de dire j'arriverai jamais à faire de l'équine sans internat, parce que moi personnellement je me suis dit quand j'ai terminé l'école, pour moi c'était impossible d'aller faire de l'équine sans internat, parce que t'avais eu on te prouvait par A plus B par des rencontres que c'était tout à fait possible. Donc t'y allais assez sereinement en fait.
Alors sereinement, j'irai peut-être pas jusque là, mais on m'avait montré que c'est... honnêtement, oui, j'aurais pas eu cette rencontre-là, j'aurais jamais cru que c'était possible. Effectivement, c'est vraiment ça qui a été déterminant.
Alors comment tu organises ta recherche de ce premier poste ?
Mon premier poste, en fait, je cherchais un poste en équine. J'aurais pas été contre de la canine, mais je voulais au moins 50% d'équine, le plus proche possible de Nantes. Je mets des guillemets parce que à 2h30 de route, c'est pas forcément très près.
C'est relatif, effectivement.
Et j'avais besoin d'un mi-temps pour pouvoir finir ma thèse en parallèle au départ. Et donc, avec tout ça, à ce moment-là, donc j'ai été contactée par une clinique du Finistère qui voulait développer leur équine. Donc, ils avaient un vétérinaire qui commençait à faire un peu d'équine, qui avant ça faisait surtout de la canine et encore avant de la rurale. Et donc, ils voyaient que ça marchait plutôt bien, ils avaient envie de développer ça et ils avaient besoin du coup de mains supplémentaires pour faire l'équine. Et donc, j'ai été voir, l'équipe était sympa, donc j'ai dit oui.
D'accord. Et donc, tu commences à travailler à partir de quand ?
Du coup, je commence à travailler en juillet 2021. Oui,
tout de suite après.
Tu plonges dans le grand bain. Ah ouais, j'avais besoin d'aller dans la vraie vie, comme on dit.
Et alors, comment ça se passe, cette rencontre avec la réalité du terrain ?
Bah, pour le coup, ça s'est vraiment super bien passé. En fait, c'était une clinique mixte. Il y avait une dizaine de vétérinaires. Mais comme je disais, l'équine était vraiment en développement. Et c'est une clinique vraiment... dans un milieu rural, en fait, au niveau équin, on n'est pas dans des chevaux de course, dans des chevaux de sport. C'était surtout une clientèle de loisirs et de particuliers. Et on avait un gros élevage du pur sang, mais un élevage, c'était pas de l'entraînement. On avait une partie de la clientèle qui était quand même assez exigeante, dans le sens où ils avaient des chevaux de valeur. Mais la plupart de la clientèle, c'était des chevaux vraiment de loisirs. Et donc, en fait, je trouve que pour faire ses premiers pas, c'était idéal.
D'accord. Et est-ce que c'était donc ça avait l'air assez conforme à ce que t'attendais du travail en équine ?
Oui.
T'as pas une grosse surprise ?
Non, pour le coup non, parce que je me retrouvais toute seule dans ma voiture, mais forcément les premiers jours c'est compliqué. On se dit est-ce que je vais y arriver ? Et puis finalement on arrive sur nos premiers cas et on y arrive et on rentre à la clinique, on en discute avec les autres vétérinaires et on arrive aux mêmes conclusions. Et donc, en fait, ça m'a plutôt mise en confiance, dans le sens où, en fait, avec mon bagage de cinquième année, c'était suffisant pour répondre à la demande des clients. Et ce qui était vraiment sympa dans cette clinique, c'est... Bon, déjà, on s'entendait vraiment bien entre les deux. Il y avait une vraie bonne entente et on se soutenait les uns les autres. Et ce qui était vraiment sympa, c'est que avec ce vétérinaire qui faisait l'autre partie de l'équine, en fait, lui, il apportait plutôt... son expérience, et moi, je pouvais apporter, entre guillemets, les connaissances théoriques, vu que c'était juste derrière moi, c'était plus récent, et donc il y avait vraiment un échange très intéressant, je trouve, à ce niveau-là.
Donc un échange un peu gagnant-gagnant, intergénérationnel, quoi.
Mais complètement, alors que moi, dans mes stages avant, à chaque fois, j'avais l'impression d'être un peu un fardeau, de voir ce qu'on m'apportait, mais de moi, rien pouvoir apporter, et donc là, je sortais d'école, et j'arrivais à apporter quelque chose. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette pour moi.
Est-ce que tu prends ce deuxième mi-temps, puisque si j'ai bien compris, à un moment, tu cumules deux mi-temps, oui. Une fois que tu as terminé ta thèse ?
Exactement. Je passe ma thèse en décembre. Du coup, fin 2021, je commence à chercher un autre travail pour compléter et puis pour me rapprocher de Nantes. Et donc, effectivement, je trouve là où je travaille actuellement un peu... Là, encore une fois, on voit le manque de confiance en soi. Donc, en fait, j'ai déposé des CV, j'ai fait des candidatures spontanées dans les cliniques équines du coin. Et il y a une clinique, celle où je travaille au final, où je me suis dit, non mais eux, c'est même pas la peine que je pose un CV, j'ai pas fait d'internat, jamais ils me prendront. Et donc, j'ai pas déposé de CV chez eux.
Et... plutôt censure.
Ah, mais complètement, je me suis auto-limitée en me disant, j'ai pas de niveau... jamais ils me prendront. Et c'est une autre clinique qui a fait... En fait, ils partageaient leur garde, je savais pas. Une autre clinique où j'avais posé un CV, ils m'ont dit « Désolé, nous, on cherche pas. Par contre, va voir là-bas, eux, ils cherchent. » Donc, j'ai dit « Bon, si on me propose... S'ils me proposent, ils ont vu mon CV, c'est que potentiellement, ça peut le faire. » Donc, j'y ai été et donc, j'ai été prise.
Il y a combien de kilomètres entre les deux cliniques ? Parce que...
Dans le Finistère, j'étais à 250 kilomètres de chez moi. Et l'autre, j'étais à 25 kilomètres de chez moi. Donc, en fait, dans le Finistère, j'avais pris un second logement et je faisais... au début, je faisais 3 jours par semaine. Et une fois que j'ai passé ma thèse, j'allais une semaine complète là-bas et j'étais une semaine complète à Nantes. Donc, j'avais quand même la route qui s'accumulait.
Comment t'arrivais à concilier avec ces deux mi-temps avec autant de distance géographique entre les deux ?
Ben, je roulais pas mal. Ouais. J'aime bien la voiture, heureusement. Je partais le dimanche soir pour arriver dans le Finistère. Je faisais ma semaine de boulot là-bas. Je repartais le vendredi soir pour revenir à Nantes et j'enchaînais. Alors après, j'étais pas à mi-temps à Nantes. Hein. Je faisais un jour et demi, je crois, au départ par semaine. Ensuite, j'ai commencé à faire des gardes le week-end, un week-end sur deux. Et non, un week-end par mois au départ, je crois. Oh, peu importe. Et donc, quand j'étais de garde, le dimanche soir, j'allais rendre la voiture de garde à Nantes. Et dans la foulée, je repartais dans le Finistère. J'arrivais souvent vers minuit dans le Finistère. Je dormais et puis j'attaquais le lundi matin sur ma journée de boulot.
Ouais, un sacré programme quand même. Hein, quand on dit que la génération Z a pas envie de travailler, là, ça va un petit peu dans l'autre sens.
C'est vrai que la route était un peu fatigante. Après, à Nantes, c'était vraiment, ça a été vraiment, ils ont été vraiment adorables. À chaque fois, le dimanche soir, quand ils savaient que je devais partir dans le Finistère, moi, je voulais discuter des cas. Ils étaient là, bon, allez, t'as de la route, vite, file, tu vas être fatiguée. À chaque fois que je revenais du Finistère, ils me demandaient, ça va, t'es pas trop fatiguée, la route, tout ça. Donc, c'était vraiment très, très bienveillant. Et donc, c'est aussi pour ça que ça s'est bien passé, c'est que derrière, ils savaient que je pouvais avoir cette fatigue-là et ils y faisaient attention, en fait.
Et à quel moment tu te dis, tu aujourd'hui tu travailles uniquement sur un des deux postes. À quel moment ça arrive de faire le choix entre les deux?
Quand au bout d'un moment tu te dis quand même t'es fatiguée de faire la route. donc c'est vers en avril mai, je commence à me dire que je vais pas pouvoir tenir ce rythme-là indéfiniment. Vers mai, je commence à parler dans le Finistère que je vais probablement partir. Après, de toute façon, dans le Finistère, quand j'étais arrivée, on avait dit on fait un an et puis on voit. Ils savaient que probablement j'allais retourner sur Nantes parce que voilà, mon copain était à Nantes et que j'avais des attaches à Nantes et que je resterais probablement pas chez eux. Et inversement, ça leur laissait aussi la possibilité, si jamais l'équipe ne se développait pas suffisamment ou que ça correspondait pas, de dire retourne à Nantes. Donc au final, c'est moi qui ai dit que je voulais retourner sur Nantes. Et donc, je suis partie en juillet. Et conjointement, j'ai une augmentation de temps de travail à Nantes qui m'a permis d'avoir de quoi manger, tout simplement.
D'accord, ok. Quand on a préparé cette interview, tu m'as dit qu'aujourd'hui, tu étais au cœur des difficultés et des joies de bébé Veto. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés et des joies dans l'ordre que tu veux?
Faut commencer par positif, les joies quand même.
Parfait.
De me retrouver baignée dans ce métier qui me faisait tant rêver et de m'y épanouir, forcément c'est un accomplissement, c'est une joie, c'est quelque chose qui nous nourrit chaque jour, quoi, d'être bien dans son travail et de savoir qu'on est à sa place, tout simplement.
Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier?
Alors étonnamment, le contact client. Quand j'étais jeune, je disais je veux faire vétérinaire parce que j'aime les animaux et j'aime pas les gens. Et en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup les gens. Le contact client, c'est quelque chose que j'adore. En plus, quand on est en équine itinérante, on rentre un petit peu dans leur monde, on rentre chez eux. Donc, c'est toujours un contact un petit peu différent, je trouve. On rentre dans leur intimité et il y a toujours une relation un peu particulière qui se crée par rapport à quand on enchaîne des consultations dans une salle. C'est pas le même rapport, je trouve. Donc il y a ça qui me plaît beaucoup, le contact avec les gens, comprendre leur motivation, comprendre leurs choix, beaucoup d'empathie et de compréhension de l'humain, tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose qui me nourrit beaucoup, le contact avec les animaux, bien évidemment, et puis toujours cette curiosité intellectuelle, résoudre un cas comme une enquête. C'est vraiment des choses qui sont importantes pour moi et qui m'épanouissent.
D'accord. Et pourtant, la clientèle d'équine, elle est réputée être la plus difficile, mais toi, tu y trouves ton compte.
Justement, je veux lutter contre ce cliché de la mauvaise clientèle équine. En vrai, c'est vrai que c'est souvent, j'entends des gens qui ont fait des stages en équine, qui voulaient faire de l'équine et qui ont dit, finalement, la clientèle, j'en veux pas. Et je me dis, c'est dommage parce qu'ils n'auraient pas fait ces stages-là, ils en auraient fait d'autres, peut-être qu'ils auraient vu la chose différemment. Bien évidemment qu'il y a une clientèle équine qui est fort difficile à supporter, je pense, au quotidien. Mais en fait, il faut savoir trouver un endroit avec peut-être un peu moins d'exigence de la part des clients, mais du coup un peu plus de bienveillance de leur part. C'est-à-dire que forcément, si on va dans un endroit où il y a que des chevaux de compète, des chevaux de course, et qu'il faut performer et machin, là, on va être beaucoup plus effectivement dans la clientèle équine telle qu'on la décrit généralement. Mais il n'y a pas que ça comme chevaux en France. Et donc, je pense qu'il faut aller chercher un petit peu des plus petites cliniques. Peut-être pas un centre hospitalier hyper bling-bling avec tous les trucs dernier cri qui est super enrichissant sur le plan intellectuel, mais peut-être un peu moins sur le plan humain avec les clients. Aller voir un petit peu un cabinet, une petite clinique avec 2-3 vétos qui sont dans leur voiture ou pas, hein, mais qui ont une clientèle un peu plus de particuliers, de loisirs, qui sera beaucoup plus sympathique.
D'accord, ben le message est passé. Et quelles sont du coup les difficultés du bébé véto?
Eh bien, on retourne sur le fameux sujet de la confiance en soi, parce que c'est toujours pas ça. Hein.
C'est presque un syndrome de l'imposteur dont tu parles là.
Oui, je pense qu'on peut mettre ces mots-là, oui. C'est vrai que donc mon premier job dans le Finistère m'a aidé à développer ma confiance en soi, parce que j'arrivais à faire ce que je voulais. Et puis là, le job où je suis va me permettre de plus apprendre. J'apprends beaucoup plus là où je suis, dans le sens où on peut aller beaucoup plus loin dans les cas. C'est aussi le défaut, entre guillemets, hein, d'une clientèle de loisirs, c'est que toujours il faut proposer des choses, mais souvent les gens, ils vont pas suivre. C'est absolument pas une critique, hein, c'est normal, hein, mais on va moins loin dans les examens, on va moins loin dans la démarche, et on va un peu plus au pifomètre, entre guillemets, hein, c'est pas du pifomètre, mais faire des traitements probabilistes et moins d'examens complémentaires. Et donc là, la clientèle où on est très sympa, très 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 gentille, mais ils ont plus les moyens d'aller plus loin. Donc voilà, je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus formateur. Par contre, je me sens moins capable. Vu que c'est des choses que j'ai pas forcément fait ou des démarches que je connais pas encore, j'ai l'impression... En fait, quand j'étais dans le Finistère, j'avais l'impression que si n'importe quel autre véto avait été à ma place... Le résultat aurait été, entre guillemets, le même. On aurait probablement mis en place le même traitement, proposé à peu près les mêmes choses, voire même des fois, j'aurais pu proposer des choses que je ne savais pas, puisque je sortais d'école et que j'avais des choses un peu plus fraîches dans ma tête. Alors que là où je suis actuellement, la plupart du temps, je me dis que si c'était un des autres vétos qui avait été, les choses auraient été mieux faites. Et donc ça, c'est pas facile.
Oui, je comprends. Effectivement, c'est quelque chose qu'on décrit beaucoup sur la jeunesse qui sort de l'école, c'est ce manque de confiance en soi qui peut être paralysant, en fait. Est-ce que toi, tu dois faire ce métier-là en équine toute ta vie?
Pour l'instant, oui. Oui. Mais je m'autorise à un jour avoir envie de faire autre chose. C'est-à-dire que pour l'instant, je me plais dans ce que je fais, même s'il y a des petites difficultés, je sais que ça va être surmonté avec le temps, avec l'expérience. Donc pour l'instant, je m'y plais sans aucun problème et je me projette loin. Mais en même temps, je sais très bien que c'est possible qu'un jour j'ai envie de faire autre chose et je me l'interdis pas. Grâce notamment à toutes vos magnifiques interviews de personnes qui ont redécouvert le métier de vétérinaire. Voilà, je me dis pourquoi pas moi un jour, j'en sais rien, on verra.
Bon, tant mieux, c'est que Vétomicro est utile, c'était l'objectif.
Complètement.
Et est-ce qu'un jour, tu aurais envie de t'associer?
Oui. Moi, j'ai cette envie-là, tout en sachant que du coup, on est dans un autre métier, hein, on n'est plus que praticien, on a toutes les autres choses qui viennent s'ajouter à ça. Mais en même temps, tout ce qui va être management, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai envie d'expérimenter. Donc oui, j'ai envie de m'associer un jour. Ou de monter ma clinique, enfin j'en sais rien, on verra comment les choses se présentent, mais oui, j'aimerais bien un jour être patron. J'irai une équipe et...
Ça ne te fait pas peur?
Non, enfin, je sais que ce sera un stress supplémentaire, une pression supplémentaire.
Des joies supplémentaires?
Oui, voilà, il faut le dire, des joies supplémentaires, et puis il y a tellement de choses à apprendre. Une fois que je serai plus à l'aise dans ma pratique et en clinique, j'aurai envie de développer ces choses-là.
Bon, là, tu vas aussi au contraire du développement, enfin de ce qu'on dit souvent, que c'est une jeune génération qui veut rester dans le salariat. Comme quoi, vous êtes tous différents. Oui. Du coup, je rebondis. J'ai des questions peut-être un petit peu plus générales sur cette histoire de génération Z pour ouvrir un petit peu des pistes de réflexion, puis pour avoir ton avis. Alors, tu m'as bien écrit avant cette interview que t'avais pas du tout envie de passer pour un porte-parole et que tu voulais juste parler en ton nom. Donc, effectivement, je pense que la démarche est la bonne. J'ai une première question. Est-ce que tu serais capable de dire quels sont les atouts que vous avez, cette jeune génération, dans le monde d'aujourd'hui ? Ce que vous apportez ?
Oui, ben, on est génération Z, on nous appelle aussi parfois la génération C pour la génération connectée, ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Non, je pense qu'on peut apporter des nouveaux outils. En fait, on est plus à l'aise, entre guillemets, avec les nouvelles technologies, et ça peut peut-être apporter des outils à prendre en main et qui peuvent permettre de faciliter notre quotidien, faciliter l'organisation, et ce genre de petites choses qui restent en tête là, qui font ce qu'on appelle une charge mentale. Essayer de décharger un petit peu cette charge mentale et de faciliter l'organisation, l'accès à des connaissances aussi, les articles scientifiques, tout ça, il y en a certains qui ont un peu de mal à y accéder, et pour nous ça peut être peut-être plus facile. Donc il y a cet aspect-là d'apporter des outils, je pense surtout des outils pour nous faciliter le quotidien.
J'ai une question parce qu'on parle beaucoup du rapport au temps qui a beaucoup changé, notamment c'est ce fameux équilibre vie pro vie perso. Comment tu vois les choses, toi, de ce point de vue-là?
Alors oui, pour moi c'est important, cet équilibre vie pro vie perso. Il y a plein de personnes qui essaient d'expliquer pourquoi les jeunes ils veulent plus de temps et pourquoi les plus vieux ça ne les dérangeait pas. J'ai pas la prétention d'avoir une réponse à ça, mais voilà, je sais que pour moi personnellement c'est important de pouvoir garder du temps pour ma vie perso, pour mon entourage, m'occuper de mon chien, mon chat, voilà. Donc actuellement, je suis à peu
près... Le violoncelle.
Et le violoncelle que j'apprends, il faut du temps aussi, effectivement. Et quand je rentre du boulot, je joue pas du violoncelle. Donc il faut des jours sans boulot pour jouer du violoncelle. Non, pour moi, c'est important. Tu vois, actuellement, je travaille 2 jours par semaine et je fais un week-end de garde sur 2. J'ai envie de travailler plus que ça. Par contre, je me vois pas... Moi, ma limite, c'est 3 jours, 3 jours et demi. Sachant que j'ai un week-end sur 2 de garde. Après, ça fait trop et il y a la fatigue qui s'accumule, on passe pas assez de temps avec ses proches et voilà. Moi, c'est mon équilibre tel que je le vois.
D'accord. Et une autre question qu'on aborde aussi souvent sur la génération Z, c'est le rapport à l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
Encore une fois, ça doit être individuel, hein. C'est toujours un petit peu complexe parce que à la fois, on a envie d'apprendre quel qu'en soit le prix. Et à la fois, on sort de 7 ans d'études qui, à défaut de nous coûter, grâce à papa et maman, pour ma part, j'ai pas eu à travailler pendant mes études parce que mes parents ont pu assumer. Donc, j'ai cette chance et j'en suis consciente. Mais en attendant, ça remplit pas le porte-monnaie non plus. Donc voilà, quand on sort d'école, on a quand même besoin d'entrer dans la vie active, de commencer à faire des économies pour plus tard et de manger, tout simplement. Donc, c'est un petit peu cette dualité entre on a envie d'apprendre à n'importe quel prix et on a besoin de faire rentrer de l'argent, tout simplement, parce que les études ont été longues. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'ai pas des prétentions salariales énormes. Voilà, je suis à la convention collective et je ne m'en plains pas spécialement. Parce que je me sens pas légitime à demander plus, en fait, tout simplement. Mais c'est vrai que à un moment donné, il va falloir que ça monte un peu, quoi.
Oui, je comprends. On vient de parler là de ce rapport au temps et de ce rapport à l'argent. Est-ce que tu comprends les inquiétudes des vétérinaires chefs d'entreprise, donc des générations au-dessus, avec la génération Z? Est-ce que tu arrives à comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer face à cette génération?
Je pense qu'il faut en parler tout simplement pour comprendre. Enfin, pour se comprendre, il faut parler. Donc il faut pouvoir discuter de qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui les inquiète précisément, et nous pouvoir répondre de pourquoi on veut les choses comme ça. Et on ne demande pas à ce que tout le monde adhère aux manières de voir de tout le monde, parce que c'est normal, on a chacun nos convictions. Mais déjà, si on se comprend les uns les autres, je pense qu'on peut avancer beaucoup plus loin.
Oui, donc finalement, ce que tu dis, c'est que eux, ils ont parfois du mal à comprendre quelles sont vos attentes, et vous, dans l'autre sens, vous avez parfois du mal à comprendre pourquoi ça bloque, en fait.
Ah oui, bien sûr, c'est complètement bidirectionnel, hein, c'est réciproque, c'est non, non, faut pas jeter la pierre aux autres, hein, quand même.
Donc finalement, c'est dans le dialogue et la communication que tout le monde arrive à trouver, même si on n'est pas d'accord, trouver en tout cas un terrain d'entente.
Oui, c'est ça. Et puis même si on n'est pas d'accord, au moins comprendre la vision de l'autre, même si on n'y adhère pas, je pense que si on comprend pourquoi il voit les choses comme ça, et ben au moins il y a ce blocage là qui est en moins, quoi.
Oui, d'accord.
C'est pas très clair.
si c'était clair. j'ai des questions. J'ai quelques questions qui reviennent souvent quand j'écris ou quand je rencontre des vétos avec qui j'en discute. C'est qu'il y a des espèces de contradictions qu'on relève dans votre génération. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Finalement. Toi, tu as fait un parcours d'excellence, hein, on le disait tout à l'heure. Tu es quand même passé par la classe préparatoire où on est quand même dans un système de vie un peu monacal. Hein, on travaille énormément. La première année d'école, d'ailleurs, où tu dis que tu as travaillé presque encore plus. Finalement, pour obtenir ce diplôme, on doit mettre beaucoup d'énergie. Et de l'autre côté, bah, on dit oui que c'est une génération qui n'a pas forcément le goût de l'effort et qui a très peur de la charge de travail du vétérinaire praticien. Et ces trucs sont complètement en contradiction. Puisque en fait vous avez travaillé énormément. Est-ce que tu peux t'as quelques pistes de réflexion pour nous éclairer là-dessus?
Bah, je pense que il faut comprendre qu'effectivement on a beaucoup donné de soi-même, que peut-être il semblerait que sur nos dernières années d'école par rapport à il y a un certain temps, on a plus donné que ce qui se faisait avant dans les écoles. Il semblerait en tout cas qu'on ait une charge qui est plus importante, ou qu'en tout cas ça nous pèse plus. Donc il faut comprendre que quand on sort de là, on va chercher notre équilibre. On se rend compte que ça c'était trop pour nous. On peut pas continuer comme ça indéfiniment, et donc on va essayer de chercher notre équilibre, retrouver une vie perso un peu plus importante. Et donc peut-être qu'au départ on va beaucoup moins travailler, mais il faut se dire que si on arrive à évoluer dans un environnement qui est bienveillant et qui nous laisse le temps de nous retrouver nous-mêmes, parce que en fait, quand on est 100% dans l'école et 100% dans le travail, ben on a l'impression d'être véto et que ça, et rien d'autre, en fait. Et comme le dit le fameux groupe, soyons un peu plus que véto et SV. Donc quand on sort de l'école, on a besoin de retrouver qui on est vraiment, quelles sont les choses autres que véto qui nous définissent. Et donc pour ça, on a besoin d'un petit peu de temps. Et si on est dans un environnement bienveillant, on comprend ça et on nous laisse un petit peu retrouver notre marque, bah petit à petit on va trouver un équilibre dans lequel on va pouvoir se remettre à travailler peut-être un peu plus qu'au départ. Je veux dire, on a tellement peur de trop travailler que peut-être qu'au départ on travaillera pas assez, mais ça va revenir.
Hey, c'est hyper intéressant parce que je l'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est hyper intéressant de le dire comme ça, et ça fait sens en tout cas. J'ai une autre contradiction qui me vient, qui est assez présente dans les débats aussi. C'est que finalement, ces dernières années, il y a une espèce de valorisation de l'entrepreneuriat avec la culture start-up, la mise en avant des personnes qui se mettent à leur compte, même la revalorisation des artisans, des filières en alternance, etc. Enfin, tout ce qui va permettre d'entreprendre. Pourtant, il y a jamais eu autant de salariat dans la profession. Alors, t'es peut-être pas le bon exemple, puisque toi, tu m'as dit que tu voulais t'associer. Mais pourquoi, à ton avis, les vétérinaires aujourd'hui, dans leur grande majorité, les jeunes vétérinaires, souhaitent rester salariés?
Ben, je pense que c'est que le fait d'être salarié, ça nous permet d'être clinicien, entre guillemets. Enfin, tout simplement, d'être que clinicien, et qu'à la base, si on fait ce métier, c'est pas quand même parce qu'on veut soigner les animaux. Donc, je pense que le fait d'être salarié, ça nous permet de rester dans notre rôle de clinicien et pas d'aller se farcir la tête avec du management, de la compta, des choses en plus et du stress en plus. Je pense que c'est une des réponses en tout cas.
Donc ça, c'est vu en fait comme un stress supplémentaire en fait.
Ah oui, enfin moi clairement pour moi c'est du stress, hein, d'avoir une entreprise qu'il faut qu'elle tourne, parce que le salariat, on a notre salaire à la fin du mois, quoi qu'il arrive, alors que si, enfin, quand on a notre entreprise, ben, on voit les chiffres arriver et il faut être sûr que, à la fin, on peut payer tout le monde et éventuellement se payer un petit peu. Enfin, je sais que les cliniques qui démarrent, ça peut être comme ça un peu quand même. C'est pas toujours...
Et vous êtes formée un peu à l'école maintenant pour tout ça?
Je pense que on commence à être plus formé qu'avant là-dessus, effectivement. Par contre, alors, il y en a qui diraient pas assez. Moi, je pense que malheureusement, quand on est à l'école, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là de devenir chef d'entreprise et d'avoir besoin de ces outils-là. C'est trop tôt, en fait. On veut d'abord être clinicien, on veut d'abord savoir soigner les animaux. Quand on nous présente des choses comme ça, honnêtement, on s'y intéresse pas à ce moment-là. C'est trop tôt, malheureusement. Je pense que même si on a envie de le développer dans les écoles, ce sera pas pris à sa juste valeur par les étudiants.
D'accord. Donc finalement, vous voyez énormément le côté stress que vient ajouter la casquette du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, il faut diversifier ses compétences, faire du management, tout ce que tu as dit, et vous avez du mal à en voir les bénéfices, en fait.
Oui, clairement. À part l'argent.
Oui, qui n'est pas un levier majeur pour votre génération.
Pas forcément, oui.
D'accord. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous remettez en question la société, hein, comme jamais, je pense, cette remise en question a été faite. Vous êtes écolo, vous êtes tolérant, vous êtes féministe, vous voulez changer la société en général et dans le métier de vétérinaire, la manière dont on pratique le métier. Et finalement, je pense que des générations avant se disent « Bah oui, mais alors dans ce cas, il faut que vous soyez décisionnaire et dans ce cas, il faut que vous soyez associé. » Alors que vous, finalement... Parfois, vous envisagez de changer les choses autrement et de passer par d'autres chemins. Est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de dire ?
J'y vois une vraie contradiction, effectivement. Après, je pense qu'il faut aussi nous laisser nous faire notre petit chemin. C'est-à-dire que je pense qu'on va mettre un pied devant l'autre et on va pas courir tout de suite. D'abord, on veut être à l'aise dans notre métier de clinicien avant de pouvoir envisager de s'investir. Enfin, pas tout le monde, hein, bien évidemment. Il y en a qui tout de suite s'investissent dans plein de choses, etc. Mais moi, pour moi, je sais que voilà, j'ai envie d'abord d'être clinicienne et ensuite développer d'autres compétences les unes après les autres et pouvoir m'investir dans d'autres choses après.
Et il faut vous laisser le temps.
Ouais, je pense qu'on peut. C'est effectivement une phrase qui revient souvent. Il faut nous laisser un petit peu le temps.
Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le fort besoin de sens. Donc, finalement, c'est de travailler pour des entreprises vétérinaires dont les valeurs sont alignées avec ses valeurs personnelles, hein, tout simplement. Comment ça s'exprime, à ton avis, dans votre quotidien ?
Différemment pour chaque personne, ça, c'est sûr. Je pense qu'on a chacun nos propres valeurs, c'est sûr. En fait, si on n'est pas dans une clinique où on a les mêmes valeurs que nous... on ne va pas s'y sentir bien à terme, mais nous, on a besoin... Enfin, moi, je pense, je ne suis pas la seule, on a besoin de se sentir bien dans notre quotidien et dans la clinique et dans nos relations avec les autres personnes pour pouvoir travailler sereinement.
Et ça, dans les cliniques dans lesquelles tu as travaillé, tu as ressenti au bout de combien de temps qu'il y avait un alignement de valeurs et que finalement, tu te sentais bien ?
Déjà, à l'entretien d'embauche, c'est quelque chose qu'on essaye un petit peu de cerner, hein, comment est l'ambiance, quels sont les points qui sont importants pour eux. On essaye déjà à ce moment-là de pas faire une erreur de casting dans un sens ni dans l'autre, hein, d'ailleurs, hein, je pense que c'est pareil pour les patrons. Mais après, forcément, il faut un peu le temps de se rendre compte de comment les choses fonctionnent réellement. Ça va dépendre de beaucoup de choses, mais assez rapidement on se rend compte de si on s'entend bien et de si on est assez aligné. Après, il faut quelques mois pour voir dans l'application concrète des choses est-ce que ça comporte toujours, on va dire quelques mois.
D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui nous écoutent? Quel message positif tu aurais envie de leur transmettre?
D'abord qu'il faut parler, discuter entre nous, que c'est que en parlant qu'on sait vraiment ce que les autres y pensent, pas en essayant de deviner. Donc non, c'est important de parler, d'exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir avancer avec les autres. Donc parlez-en, si ça va pas, parlez-en, vraiment. Et ensuite, que c'est vraiment un métier fabuleux. et que il faut prendre le temps de trouver effectivement une clinique qui correspond à nos valeurs, mais tenez bon, vous allez la trouver et vous allez voir que c'est génial en fait.
Bon, bah, c'est un super message. Et aux patrons qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils aient envie de vous former, de vous accompagner et de vous laisser le temps justement?
En fait, on est quand même déterminés. On a passé 7 ans dans nos études, coûte que coûte, et parfois pour le plus dur, pour certains moments. Et en fait, on a vraiment envie d'y arriver. Et donc, effectivement, il faut nous laisser un petit peu de temps au départ, mais après, je pense que vous serez pas déçus.
Bon, ben c'est un message qui sera, j'espère, entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais ajouter?
Non, je crois que c'est déjà pas mal.
Oui, on a été exhaustif. Est-ce que si des confrères et des consoeurs ou des étudiants veulent te contacter, comment ils peuvent le faire?
Déjà, bien, c'est avec grand plaisir, donc il y a pas de souci, n'hésitez pas. On peut mettre, j'imagine, mon mail en commentaire et puis sur Facebook.
Alors, on met pas les mails perso en commentaire, mais parce que voilà, c'est par les réseaux sociaux, sur LinkedIn.
Oui, par les réseaux sociaux, Facebook surtout, LinkedIn, j'y vais pas trop, mais Facebook, Messenger, aucun problème. Cécile MCT.
Bon, bah, impeccable. Je te remercie Cécile de nous avoir contacté. C'était très sympa. Cette discussion était sympa puis instructive. Tout ce qui concerne le mal-être étudiant, c'est quand même un sujet aujourd'hui d'actualité et puis qui fera écho, je pense, à pas mal de nos confrères, consoeurs et étudiants qui sont en poste. Donc merci beaucoup pour ça. Je te souhaite une très bonne continuation dans ton métier de vétérinaire et bien.
Merci beaucoup.
Au revoir Cécile.
Salut.
Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.